c'est étonnant, non? Aujourd'hui, je vais vous parler d'opéra. Ah, vous allez vous dire, l'opéra en Périgord. Oh là là, c'est un truc pour les riches. Ça doit être long. Ça doit être pénible. Ça, c'est un a priori qui dure depuis très longtemps dans notre pays. L'opéra, en fait, c'est merveilleux. L'opéra, c'est à la fois de la musique, de la danse, du théâtre. Plein de choses. Ça raconte plein d'histoires. Ah, pas toujours joyeuse, je reconnais. Mais bon, je vais quand même vous parler aujourd'hui de la création d'un opéra qui s'est passé dans la deuxième partie du 19e siècle, vers les années, entre 1865 et 1875. Voilà. Mais avant, on va écouter un petit bout d'opéra, parce que vous en connaissez plein, des bouts d'opéra. Et je vais commencer par une chose qui va peut-être vous interpeller. On écoute. Alors bien sûr, vous avez reconnu, c'est la pub du jambon d'Aoste. Et si vous ne la connaissez que sous ce nom-là, c'est pas très grave. C'est même pas grave du tout. Et en fait, c'est un opéra de Verdi qui s'appelle Rigoletto. Et vous connaissez un autre air de Rigoletto, je vais vous le passer après. Et parce que ce sont des choses très très célèbres. Vous en connaissez même trois pour les plus anciens. Mais bon, voilà, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que, en fait, on est dans les années 1860 et il y a un personnage en Égypte qui veut faire construire un opéra pour son pays. Alors, c'est une histoire curieuse parce qu'en fait, ce personnage, Ismail Pacha, a le titre de Khedive. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un Khedive? Ben, je crois que ça a peut-être été le seul qui portait ce titre. En fait, si vous voulez, à l'époque, on est dans l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est une grande partie du Maghreb et de l'Afrique du Nord, et en fait, c'est plus ou moins sous domination turque.
Constantinople, 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 Constantinople,
Donc, de fil en aiguille, cet empire, qui a quand même commencé au XIIIe siècle, hein, ce qui n'est pas rien, va cesser dans les années 1920, dans les années 1920, je crois que c'est exactement 1923. Et Ismaïl Pacha, en fait, qui est un sacré personnage, Ismaïl Pacha est donc Khedive. Alors Khedive, en fait, ça vient d'un vieux mot persan, qui veut dire seigneur ou vice-roi. Le terme de vice-roi, on va revenir dessus. Et en fait, ce terme a été créé en 1867, on peut dire pour lui. Un Khedive, on dit que c'est un vice-roi. Vice-roi, ça veut rien dire, en fait. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un empire, c'est comme si exactement vous aviez un personnage qui dirigeait l'Europe, qui s'appellerait le sultan, et puis que la France, la Belgique, le Luxembourg soient dirigés chacun par un chef d'État qui serait globalement un vice-roi. Donc le vice-roi d'Égypte s'appelle le Khedive. Voilà, Ismaïl Pacha. Alors Ismaïl Pacha, lui, il est né en 1830, presque en 1831 d'ailleurs, parce qu'il est né en décembre et à la fin du mois. C'est un prince arabe, un fils de prince, musulman, et à l'époque, généralement, les enfants des princes de l'Orient faisaient leurs études à l'Occident, souvent en France ou en Angleterre. Alors lui va faire ses études à Paris. Bien entendu, à Paris, il possède un hôtel particulier avec du personnel. Ismaïl Pacha ne fait pas la cuisine et ne passe pas la serpillière pour nettoyer son appartement, bien entendu. Ça se passe comme ça à l'époque. Et il sort beaucoup. Alors il va aux concerts, il va aux expositions, il fait du cheval, il est invité par des familles aristocratiques et par des bourgeois également. C'est la vie d'un jeune étudiant riche. À cette époque, ça se déroule comme ça. Alors il faut voir que dans ce début de révolution industrielle, puisqu'on est au milieu du XIXe siècle, les bourgeois, alors il y en a qui sont d'aristocratie nobiliaire, mais très souvent ils ont contracté des mariages avec des bourgeois parce que les fortunes se sont souvent amenuisées, et donc les bourgeoises, les femmes de bourgeois, les femmes d'industriels, se tiennent généralement salon, c'est-à-dire qu'elles reçoivent des gens. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tout à fait comme maintenant, je veux dire, où effectivement, quand on danse, souvent, on prévoit un petit peu la soirée, on amène des disques, tout ça. Donc, à l'époque, il n'y a pas de disques, hein, ça n'existe pas encore. Donc, en fait, il y a des soirées où il y a des musiciens, bien sûr, mais il y a aussi des fois où il y a un instrumentiste sur place, généralement un pianiste, mais il va se mettre au piano et les gens vont danser. Alors qu'est-ce qu'ils vont danser? Ils vont danser, par exemple, des valses, comme celle-ci.
En ce qui concerne les danses collectives, on trouve bien sûr celles qu'on danse depuis longtemps, la valse, la mazurka, la marche, la scottish, mais on en trouve deux à l'époque qui font fureur. La première, c'est le quadrille.
Ah, le quadrille se danse avec deux couples, hein, deux et deux, quatre. Donc, il est composé de figures.
Ces figures ont des noms. Les lignes, les moulinets, les tiroirs, les visites. Tout ça est très codé.
Donc, il y a généralement une petite musique qui fait l'appel pour que les danseurs se mettent en place. En fait, quand vous êtes une troupe de gens comme ça, monsieur invite madame, mais il ne danse pas forcément avec son épouse ni avec sa compagne. Donc, il invite qui il veut, et ainsi de suite. Les couples comme ça se font et se défont. Donc, il y a un petit appel, et quand les couples sont prêts, les figures démarrent. Qu'on écoute deux figures de quadrille. Ça, ce sont des danses, évidemment, qu'a pu danser Ismaël Pacha.
La deuxième danse très à la mode, c'est le galop. Le plus célèbre, c'est celui qui termine Orphée aux Enfers d'Offenbach, c'est le French Cancan. Alors le but du galop, évidemment, c'est d'aller de plus en plus vite, et quand on finit et qu'il y a un ou deux couples qui se cassent la figure à la fin, évidemment, ça amuse tout le monde, et tout le monde est très content. We'll be right back. après Paris, les études, la fête un petit peu aussi bien sûr, Ismaël Pacha va rentrer en Égypte et prendre ses fonctions de chef d'État. Alors il est très attaché à l'image de son pays et bien sûr très très conscient du fait que l'Égypte occupe une place tout à fait à part sur cette zone d'Afrique du Nord, notamment avec une civilisation ancienne extrêmement brillante. C'est un homme très cultivé.
Il va faire et commander plein de choses. Alors des fois, il va se passer des choses extraordinaires. Une petite anecdote, par exemple, le canal de Suez.
Les travaux du canal de Suez ont commencé en 1859 et l'inauguration a eu lieu 10 ans après, en 1869.
C'est-à-dire juste dans la période qui nous concerne. Et pour le canal de Suez, il a un carnet d'adresses en Europe et notamment en France, Ismaël Pacha, qui est très fourni. Donc il va s'adresser à un sculpteur parce qu'il voudrait qu'une grande statue soit à l'entrée du canal.
Ce n'est pas une chose véritablement nouvelle, puisque dans l'Antiquité, les Grecs
avaient fait ça à Rhodes, par exemple, avec une statue gigantesque qui s'appelait le Colosse, et qui faisait partie d'ailleurs des sept merveilles du monde. Donc il s'adresse à un sculpteur français, Bartholdi. Et donc Bartholdi commence à faire un modèle, et il fait une espèce d'allégorie, c'est très très beau. Et en fait, Ismaël Pacha, ça ne lui plaît pas. La statue ne lui plaît pas, donc il ne l'achète pas. Malgré ce que dit Bartholdi, Bartholdi va réemployer cette statue, en fait. Et quelques années après, la France va l'offrir aux États-Unis.
Cette statue, c'est la statue de la liberté.
C'est quand même étrange et très drôle de voir cette œuvre, qui est quand même une des œuvres les plus célèbres au monde, dans le port de New York. Et alors c'est curieux, parce qu'à l'époque, Bartholdi, qui l'avait un petit peu mauvaise quand même, mais bon, qui était un homme bien élevé et sympathique, n'a pas voulu se charger, il a fait la statue, il a réalisé la statue, il a fait le plan, en fait, mais il n'a pas réalisé le socle. Et le socle a été réalisé par Gustave Eiffel, celui qui a fait notre tour. Voilà, donc... Ismaël Pacha, bien entendu, tout à fait conscient que son pays était quand même d'une culture tout à fait gigantesque et avec des traces, parce qu'il restait les temples, il restait les pyramides, bon, il restait des statues colossales, il y avait plein de preuves que la civilisation égyptienne avait été glorieuse et très importante, avec une symbolique extraordinaire. Donc Ismaël Pacha, après le canal de Suez, commande un opéra.
Pourquoi Ismaël Pacha veut-il construire un opéra en Égypte ? Il y a plusieurs raisons. Il y en a au moins deux. La première raison est qu'en Europe, on en construit pas mal parce qu'il y a eu un trou, en fait, entre la fin du 18e et la première moitié du 19e. Alors, les plus anciens, Londres et San Carlo, ont été construits au début du 18e, 1732-1737. Ça fait pas mal. À la fin du 18e, Berlin a construit le sien, et on a eu, à 20 ans d'écart, la Scala de Milan, donc une des plus grandes salles du monde d'opéra, et le Venise, le théâtre de la Fenice. Et puis ensuite, on a un trou, avant d'avoir Dresde en 1832. Et donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on va avoir plusieurs constructions dues à des causes diverses. L'Opéra de Paris, par exemple, qui a été construit en fait en deux fois, puisqu'il y a eu la guerre de 1870 entre les deux, qui a aussi impacté la composition, on va le voir, d'Aïda pour la commande de l'Opéra du Caire. L'Opéra de Paris, par exemple, a été construit à la suite d'un attentat contre Napoléon III. Donc il s'est dit qu'il fallait le mettre ailleurs, et c'est le début du Paris haussmannien, avec des avenues très larges. pour qu'on puisse voir effectivement quand il y a des révolutions ou des émeutes avec les barricades. Parce qu'en fait, la raison haussmannienne principale, c'est ça. C'est une région politique et policière, et non pas du tout une raison architecturale. C'est bien de rappeler ce genre de choses de temps en temps. Alors bon, même si Ismaël Pacha a refusé la statue de Bartholdi, l'inauguration des fêtes du canal de Suez va être absolument somptueuse. Le canal et le bâtiment de l'opéra sont inaugurés la même année, en 1869. En revanche, la première représentation d'un opéra dans le lieu sera de Verdi, mais ça ne sera pas l'opéra commandé, ça sera Rigoletto.
Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muto d'accento e di pensier.
Vous avez tous reconnu le fameux « Comme la plume au vent », un des airs les plus célèbres de Rigoletto. Rigoletto qui a été pillé par beaucoup de choses, la publicité, des indicatifs, des choses comme ça, parce qu'il y a plusieurs airs célèbres dedans. Il y en a un notamment sur lequel Henri Salvador avait fait une pantalonnade appelée « Juanita Banana », qui est également extraite de Rigoletto. Je vous en passe un petit morceau. En 1871, la première a lieu. Verdi, le compositeur, n'insistera pas. Verdi considère que cet opéra joué devant un parterre de riches, de nantis, ne correspond pas aux idées qu'il a de l'opéra. Il se représente quelque chose avec beaucoup plus de gens du peuple dans l'auditoire. Toujours est-il que Auguste Mariette, l'égyptologue français qui est en Égypte depuis longtemps, a tout conçu, le décor, les costumes, il les a dessinés, c'est absolument remarquable, c'est lui qui a choisi l'histoire. Et alors Auguste Mariette, qui est un homme absolument génial, mais qui est assez... c'est quelqu'un qui doute de lui, alors qu'il a vraiment beaucoup de talent, que tout le monde lui reconnaît, c'est lui qui est à l'origine du musée du Caire, de sa conception et de sa construction. Auguste Mariette va retirer son nom quelques jours avant la représentation. Il pense que ça ne va pas marcher et de fait, son énorme travail ne lui rapportera absolument rien. Alors que pendant ce temps, Ismaïl Pachia, qui n'a pas cessé les mondanités, fait entendre à tout un chacun qu'il pourrait bien être à l'origine du livret. Et voilà, c'est aussi une des facettes de ce personnage étrange. La représentation se passe très bien, la musique est magnifique, et Verdi va utiliser des choses qu'on n'utilise pas habituellement, notamment une fanfare
avec des trompettes.
Il a utilisé ces trompettes en référence à des instruments antiques qui annonçaient les cérémonies dans l'Égypte ancienne. Les trompettes thébaines, c'était des sortes de cuivre très très longs, qui étaient aussi des instruments d'apparat. Voilà. Donc Verdi va utiliser ça, et ça va donner lieu au passage le plus célèbre de l'opéra, Les trompettes d'Aïda, que nous écoutons, ce sera notre dernier extrait. Malheureusement, le magnifique opéra Quédival du Caire va brûler en 1971, un siècle après sa construction. Ismaïl Pacha va mourir en 1895, à 63 ans, à Constantinople. Son pays est ruiné, criblé de dettes. Il a dû revendre toutes les parts du canal de Suez à des investisseurs européens. Son goût du luxe est resté, puisque même au moment de sa mort, il possède encore deux yachts sur lesquels vivent 30 concubines.
C'est étonnant, non ?